Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de l'actualité, ce midi sur Radio Kapi, les 9e jeux de la francophonie se clôturent ce dimanche ici à Kinshasa. Pendant ce temps, les compétitions sportives se poursuivent ce samedi en basketball avec les matchs de classement. Vanessa Kongolo nous en parle à l'ouverture de ce journal. Recrudescence des cas de kidnapping dans la ville de Mbujimayi au Kassai Oriental. Les organisations de la société civile en appellent à la responsabilité des autorités. Le gouverneur de la province de l'Ituri et l'invité de ce radio-journal, Johnny Luboy Nkashama, va nous parler de l'opération des rapatriements volontaires des déplacés de guerre au sud du territoire de Rumu, lancée hier à Bunia. Mesdames et messieurs, bonjour. La 9e édition des Jeux de la francophonie se clôture demain dimanche ici à Kinshasa. Les compétitions sportives se poursuivent ce samedi en basketball avec les matchs de classement en judo, mais aussi des finales des combats en lutte africaine où la RDC est concernée pour 3 finales. Alors, comment se présente le tableau des médailles à la veille de la clôture de ces Jeux? Vanessa Kongolo.
Le Maroc est en tête avec 58 médailles, dont 23 en or, 16 en argent et 19 en bronze, suivi de la Roumanie, 38 médailles, et le Cameroun est troisième, avec également 38 médailles, mais à la différence de médailles en or. La France est quatrième avec 15 médailles, mais avec 7 en or. Le Burkina est cinquième, et la Côte d'Ivoire est sixième, et la RDC est huitième avec un total de 33 médailles, dont 5 en or, 10 médailles d'argent, 18 en bronze. Le pays des Léopards a encore une chance de gagner de médailles ce samedi en lutte africaine, parce que l'équipe chez les dames va combattre contre le Madagascar. Et chez les hommes de moins de 66 kilos, Bolenge et Ngene vont compétir en finale de l'or. Chez les messieurs de moins de 86 kilos, Mayaka Pongo Kabwanga va combattre contre Mohamed Ibrahim.
Je l'ai dit tantôt, au Kassai Oriental, des cas de kidnapping sont enregistrés dans la ville de Mbujimayi ces derniers jours. Quelques organisations de la société civile affirment avoir enregistré 5 cas la semaine dernière. Aucun quartier n'est épargné par cette pratique. Mercredi dernier, lors de la cérémonie de clôture de la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale, le vice-président de la première institution provinciale a, dans son allocution, déploré cette pratique qui devient monnaie courante dans la ville de Mbujimayi. D'après les familles victimes, ces kidnappeurs exigent de grandes sommes d'argent pour libérer leurs otages. Cependant, la bourgmestre de la commune de Bipemba précise que quelques présumés kidnappeurs sont déjà identifiés et recherchés au niveau de son entité administrative. Irène Mbalayi, bourgmestre de Bipemba, est jointe au téléphone par Esther Ndalafina.
Il y a des cas comme ça, il y a un monsieur bien connu qui s'est fait vraiment kidnappeur. Il s'amène avec une moto. Et là, nous avons pris comme disposition la sécurité d'abord avec le chef de quartier et aussi les jeunes volontaristes du quartier. Ils sont là, ils vont d'office la brigade nocturne qui nous aide à pallier sans oublier notre police. Aujourd'hui là, il y a toujours des cas qui s'enregistrent, mais grâce à ce dispositif-là, les gens ne parviennent toujours pas à réussir leur mission au niveau de la commune. C'est-à-dire les kidnappeurs, nous les avons déjà identifiés et la population est veillée à faire à ce qu'ils ne puissent pas réaliser leur mission. On a associé cette jeunesse afin d'abord de lutter contre tout ce qu'il y a toujours eu comme problème. Toutefois, nous demandons à l'actuel général de pouvoir renforcer vraiment les mesures de sécurité au niveau de la ville en général et plus particulièrement la commune de Bipemba. Sans oublier que Bipemba est trop vaste de toutes les communes, parce que c'est une situation précaire qui met en danger la population d'une manière générale.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, plusieurs habitants de la localité de Kalunguta, à une trentaine de kilomètres de Beni, ont passé la nuit dernière dans la brousse. À l'origine, des affrontements entre deux groupes Maïmaï. La circulation suspendue à cause de ces affrontements reprend timidement ce samedi sur l'axe Beni-Butembo. Marc Marofimbo pour des précisions.
Tout est parti lundi dernier avec la présence à Kalunguta de deux leaders du groupe Maïmaï Union des Patriotes pour la Libération du Congo IPLC qui se disputent le leadership de cette milice basée dans cette localité considérée comme leur site de cantonnement. Vendredi, des crépitements de balles étaient entendus en début de soirée dans cette localité. Selon les autorités locales, il s'agissait d'une altercation entre ces deux chefs de la milice IPLC, la deuxième en l'espace d'une semaine. Craignant pour sa sécurité, la population a fui dans la brousse où elle a passé la nuit. Le chef du groupement de Bouli qui appelle le gouvernement a été intervenir pour la protection des civils dans cette zone où il n'y a aucun élément de FRDC. Paluku Nzombia dénonce également les tracasseries que subit la population dans la zone où ces miliciens Maïmaï font payer des taxes illégales aux habitants. Ce samedi matin, le calme était revenu à Kalunguta et ses environs. La circulation a repris timidement et la population qui avait passé nuit dans la brousse est de retour au village. Pour rappel, c'est depuis plus de 4 ans que ces Maïmaï sont cantonnés à Kalunguta où ils attendent leur démobilisation. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Par ailleurs, dans la province de la Tchopo, le tribunal de grande instance de Kisangani condamne 7 jeunes appartenant à un groupe de gangs à des peines lourdes allant de 10 ans de servitude pénale principale à la peine capitale. Le verdict est tombé tard dans la nuit de jeudi à vendredi au terme de 2 jours d'intenses audiences en chambre foraine organisées dans la commune Tchopo. Jacques Mukongole.
De ces 7 jeunes, 4 sont condamnés à la peine capitale. Les autres, ainsi qu'un chef de bloc, écopent de 10 ans de servitude pénale principale. Tous sont astreints également au paiement chacun d'un montant d'1 million de francs congolais, des dommages et intérêts en faveur de 15 victimes identifiées, ainsi qu'aux avocats de la défense. Ces derniers s'étaient constitués en partie civile. Tous étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, vol avec violence et coups et blessures simples. Ils avaient été arrêtés par des jeunes d'un autre groupe, décidé de lutter contre la criminalité dans leur entité. Présentés à l'autorité communale, cette dernière les avait mis à la disposition de la police avant d'être déférés au parquet de grande instance. 2 jours d'audience en chambre foraine ont suffi pour rendre ce verdict que toute la population salue puisque leur fief, la zone dite 11-15, c'est-à-dire les avenues allant de la 11e à la 15e avenue Tchopo, était devenue une entité entièrement sous la loi de ces jeunes dénommés Evapo. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur la fréquence de la paix. À Ituri, 24% d'enfants des territoires de Djougou, Irumu et Mambasa et de la ville de Bunia n'ont pas étudié au cours de l'année scolaire précédente. Plus de 230 écoles sont également incendiées par les groupes armés. Ces chiffres ont été publiés hier à la clôture de la revue annuelle des performances de l'enseignement primaire et secondaire dans la zone éducationnelle Ituri 1. Plus de 120 acteurs du secteur éducationnel ont participé à cet atelier de 3 jours dont l'objectif est d'améliorer l'accès à l'éducation et la qualité de l'enseignement. Radio Kapibunia, Marine Mamagira.
La plupart de ces enfants ne vont pas à l'école à cause de l'insécurité dans ces entités territoriales. Certains ont fui avec leurs parents dans des villages proches et d'autres se sont installés au site des déplacés où les infrastructures scolaires font défaut. Selon le directeur provincial de l'EPST Ituri 1, 16% des enfants ont abandonné les études l'année dernière à cause des conditions socio-économiques précaires. À cela s'ajoutent d'autres défis dont le nombre insuffisant d'inspecteurs pour la supervision et les suivis de la qualité de l'enseignement. Plus de 230 écoles ont été incendiées et plusieurs infrastructures scolaires sont défectueuses, c'est-à-dire construites en paille ou non équipées. Jean-Jacques Massumbuko parle des dispositions prises pour améliorer la qualité de l'enseignement en Ituri et améliorer l'accès à l'éducation.
Si la sécurité est rétablie, on peut sensibiliser les parents sur l'importance de la scolarité et nous avons mobilisé les partenaires techniques et financiers, les gouvernements provinciaux et tous les acteurs pédagogiques pour réhabiliter les écoles détruites, pour réinstaller, aller toujours vers les réformes qui sont exigées par notre ministère.
Notons que le cahier de charges élaboré dans ces assises sera présenté à la hiérarchie à Kinshasa lors des assises d'évaluation des performances au niveau national. Bounia, Marine Mamagira, Radio Okapi.
Revenons un instant au Kasaï oriental pour parler brièvement de la cérémonie de remise technique de quelques infrastructures construites dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Après la construction des centres de santé ainsi que les écoles primaires dans les territoires de Lupata, Pata, Katanda et Miabi par la Caritas Idiofa, Caritas Mbujimai et l'ONG Diku Dilenga, ces nouvelles infrastructures ont été remises officiellement jeudi et vendredi aux responsables de l'antenne du bureau central de coordination Beseko Mbujimai. La réception de ces infrastructures se poursuit encore ce samedi. D'après le directeur général de Beseko, une autre cérémonie de remise officielle aux autorités administratives est attendue, mais déjà les bâtiments scolaires construits sont prêts à accueillir les élèves à la rentrée scolaire prochaine et ceux des centres de santé peuvent incessamment être utilisés pour les soins des malades. Nord Kivu, la dégradation de la route Goma-Masisi-Walikale, longue d'environ 250 km, préoccupe toujours la population. L'impraticabilité de cette route d'intérêt provincial rend difficile les échanges commerciaux, l'approvisionnement des denrées alimentaires et bien d'autres conséquences sur le plan sécuritaire et sanitaire. C'est le constat établi par le Bureau d'études et de développement de Walikale, BDWA, qui soulève une fois de plus cette question. Dans une correspondance adressée le 2 août dernier au gouverneur militaire du Nord Kivu, cette organisation alerte l'autorité sur l'impraticabilité avancée de cet accès routier et sollicite son implication personnelle afin que la circulation y soit rétablie. Patrick Maboutoua, secrétaire exécutif des BDWA, explique.
Cette route est l'une des infrastructures en province qui peut apporter un plus grand bénéfice à l'État congolais si et seulement si elle était construite durablement. Ici à Goma, nous souffrons de la pénurie des produits agricoles. Pourtant, ces produits pourrissent suite au manque de voies d'évacuation et c'est en tout cas un manque à gagner à mon sens pour notre pays. C'est aussi une route qui, si elle était bien accessible, permettrait l'évacuation de ressources naturelles qui sont exploitées légalement dans ces coins et cela permettrait à ce que des opérateurs puissent en tout cas atteindre point d'exportation sans beaucoup trop de peine. En tout cas, ce serait en même temps une opportunité pour les investisseurs d'initier des projets qui boosteraient non seulement l'économie locale, mais aussi les développements de ces entités qui sont aujourd'hui en tout cas très enclavé.
Rappelons qu'en novembre 2021, les autorités avaient annoncé les débuts des travaux sur cet axe, mais ces travaux ont par la suite été suspendus pour des raisons non communiquées. Et puis, dans la province du Kwilu, au total 1 186 933 enfants de 0 à 59 mois sont vaccinés contre la poliomyélite pendant la première phase de la campagne de vaccination lancée le 28 juillet dernier par l'autorité provinciale. Selon le médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination PEV du Kwilu, au moins 1 175 050 enfants étaient attendus pour cette campagne. Ces résultats, selon Dr Steve Matoma, représentent 101% de la population cible. Il justifie et ses dépassements par les mouvements des populations, notamment la présence des enfants déplacés de Kwamout, reçus ça et là à travers la province du Kwilu et qui ont aussi été vaccinés. On écoute le docteur Steve Matoma, médecin coordonnateur du PEV Kwilu, au micro de Irène Boma.
Durant en moyenne 5 jours, les vaccinateurs sont passés maison par maison pour vacciner les enfants de 0 à 59 mois, donc de 0 à 5 ans. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'analyser ces données dont toutes les équipes ont transmis les données. Et en ces jours, nous avons vacciné 1 186 933 enfants. Nous attendions 1 175 050 enfants. Donc, nous sommes à 101% de la population que nous attendions. C'est vrai, la question vous allez poser, mais comment vous êtes allé au-delà de votre cible? Vous êtes sans doute informé que la province de Kwilu a reçu nos frères déplacés qui viennent de Kwamout à travers la ville de Bandundu et ailleurs. Et on note même ceux qui sont arrivés au niveau de la zone de santé de Sia, dont nous avons vacciné un enfant qui n'a jamais été en contact avec le vaccin. Donc, c'est les déplacés et d'autres personnes. Nous sommes pendant les congés aussi. C'est comme ça que nous avons atteint pratiquement cette cible de 101% au niveau de la province.
Notez que la deuxième phase de la vaccination contre la poliomyélite est prévue en septembre prochain, sauf imprévu, indique Steve Matoma. Et dans la commune rurale de Mangina au Nord Kivu, début jeudi de la campagne de sensibilisation des parents à l'inscription de leurs enfants à l'état civil. C'est après avoir constaté une baisse du taux d'enregistrement des enfants dans cette entité. Cette campagne de porte-à-porte qui va durer une semaine vise donc à rappeler aux parents des 6 quartiers de cette commune le bien fondé de l'enregistrement des enfants à l'état civil. David Ndundi Ndasisima, l'officier de l'état civil de la commune de Mangina, parle de l'importance de cette campagne au téléphone de Marc Marofimbo.
Inscrire son enfant à l'état civil a plusieurs avantages. D'abord, l'enfant est reconnu dans la famille. En cas de deuil dans la famille, comme l'enfant a déjà son acte de naissance reçu de l'état civil, l'enfant aura droit à l'héritage de cette famille car il est reconnu. En plus, l'enfant a une nationalité. Il est identifié comme un citoyen congolais. Et là, il va jouir de tous les avantages en provenance du gouvernement, tels que la gratuité de l'enseignement, des soins. Mais si l'enfant n'a pas l'acte de naissance, si un don du gouvernement arrivé, même dans les cadres de soins, on demandera son acte de naissance et s'il n'en a pas, les parents vont payer la facture de soins. L'acte de naissance a beaucoup d'avantages pour l'enfant. L'inscription de l'enfant à l'état civil s'est faite jusqu'à 90 jours de sa naissance.
Actualité internationale.
Au Niger, les principaux chefs militaires de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest se sont mis d'accord sur un plan pour une éventuelle intervention au Niger. Cette décision, prise lors d'un sommet extraordinaire organisé par les officiers, intervient à l'approche de la date butoir fixée aux militaires au pouvoir pour rétablir un régime civil. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a donné dimanche 30 juillet aux dirigeants militaires qui ont renversé le président élu Mohamed Bazoum une semaine pour le rétablir dans ses fonctions sous peine d'un éventuel recours à la force. Les militaires nigériens ont promis de répondre immédiatement à toute intervention étrangère. Ils retiennent Bazoum et sa famille dans sa résidence officielle à Niamey, la capitale, depuis 9 jours.
L'invité.
Province de l'Ituri, le gouvernement provincial a lancé hier à Bounia l'opération de rapatriement volontaire des déplacés de guerre au sud du territoire d'Irumu. La première vague de ces déplacés a quitté ce matin Bounia grâce aux moyens logistiques mis à leur disposition par l'exécutif provincial. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement et ses partenaires pour la réinsertion de ces retournés de guerre dans leur milieu d'origine? Quels sont les mécanismes mis en place pour garantir la sécurité dans ces zones de retour pour éviter le cycle des violences des groupes armés? Le gouverneur des provinces, le général Johnny Luboy Nkashama, répond à cet entretien avec Martial Kizabiamungu.
Monsieur le gouverneur Johnny Luboy Nkashama, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Plus d'un millier de déplacés du sud d'Iromo installés à Bounia, commandent à EAR vers le retourner dans leur village d'origine. Que fait le gouvernement pour les accompagner dans la zone de retour?
La première chose d'abord, c'est quoi que vous l'avez vu? Nous avons organisé ce retour-là. Donc, on a organisé le transport pour qu'ils soient ramenés à la maison. Et les zones de retour, notamment, spécialement pour ceux qui sont en train de partir, c'est plus Boga, Tchabi, où il y avait, comme je vous l'avais, vous le savez, il y avait beaucoup d'ADF là-bas qui ont été éloignés de ces villages-là. Voilà, et des faits aussi, parce que leur capacité de nuisance a vraiment diminué.
Qu'est-ce qui motive ces retours?
C'est la paix, hein. Vous savez que nous avons beaucoup travaillé avec nos amis de la MONUSCO. On a eu un bataillon qui est venu de Lokossa, qui est aujourd'hui à Boga. Et nous avons aussi, de ce côté-là, des militaires de la MONUSCO. Et nous avons mené des opérations dans toute cette contrée-là. Et de deux, nous avions aussi organisé des opérations toujours avec le FIB du côté de Komanda sur la RN4 entre Komanda et Luna vers Otomaber, et avec toujours d'ailleurs des militaires qui ont été entraînés par le commando guatémaltèque. Et donc nous avons ces commandos-là avec lesquels nous avons, n'est-ce pas, opéré, et aujourd'hui nous avons une accalmie dans ces endroits-là et nous les appelons des zones de retour. Et donc pour les zones de retour, non seulement nous avons déjà parlé à la hiérarchie pour que on nous donne plus de moyens pour aider ces populations qui rentrent, mais vous savez aussi que même avec le secrétaire général adjoint qui était arrivé ici, on avait évoqué ce problème-là des zones de retour, même avec madame Bintou aussi qui vient de repartir, on a aussi évoqué les zones de retour. Et donc avec nos partenaires, avec les agences et tout, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons aider ces populations qui sont en train de rentrer chez elles.
Alors, ces déplacés sont dépourvus presque de tout leurs biens. Leurs maisons ont été incendiées, des biens pillés. Quelles sont les dispositions prises pour leur réinsertion dans leur communauté?
Nous avons déjà fait un grand travail, non seulement avec le gouvernement, qui va ramener des moyens d'ici là, mais aussi avec nos partenaires. Et il y a des projets qui sont déjà organisés. Je suis sûr que d'ici 2-3 mois, ces déplacés seront vraiment, vraiment aidés. Ils recevront vraiment l'appui, et que ce soit de la communauté internationale, parce que ce sont des choses que nous avions déjà préparées, et que ce soit aussi de notre gouvernement.
Le retour volontaire de ces familles, c'est une très bonne chose, mais quels sont les mécanismes mis en place par le gouvernement pour que la sécurité dans toutes ces zones soit garantie après les retraits de l'armée ougandaise qui est en opération conjointe avec les forces armées ainsi que la MONUSCO qui appuie l'armée congolaise?
D'abord, je vous ai dit que la hiérarchie nous avait déjà doté d'un bataillon en ce qui concerne Boga et Tchab, là où les gens sont en train de rentrer. Il y a eu un recrutement massif et donc ces jeunes-là, ils viennent s'engager là, ils viennent de terminer. Dans quelques 2 ou 3 mois, ils seront là et donc ils pourront valablement remplacer toutes les forces là dont vous avez parlé. Mais pour la MONUSCO, vous savez, nous sommes en train de travailler sur le plan de transition. Nous sommes en train de travailler ensemble pour que effectivement, le jour où ils vont partir, qu'il n'y ait pas un vide.
Pour terminer, monsieur le gouverneur, quel message avez-vous à d'autres déplacés, notamment ces Ndjougou qui sont dans des sites ici à Bounia qui hésiteraient encore de retourner dans leur milieu malgré l'accalmie observée dans certaines entités du territoire d'Ndjougou.
Vous savez, je crois que nous avons maintenant un grand précédent ici à Ituri. Nous sommes arrivés ici, même si les gens, l'image qu'ils veulent, les mauvaises personnes de toutes les façons, l'image qu'ils veulent montrer, c'est que toujours insécurité. Mais vous savez que nous sommes arrivés ici à Ituri, de Marabo jusqu'à Komanda. Il n'y avait pas de population. Aujourd'hui, ces populations-là sont rentrées. Kobu, Bambu, Nyangaraï, Lipri, Mwanga, les populations sont rentrées. Alors, ceux qui sont encore dans les sites, qu'ils rentrent chez eux au lieu de rester avec les enfants dans ces conditions-là. Les enfants, des fois, des enfants qui ne vont pas à l'école, les enfants, des fois, aussi malnutris, parce que ça, c'est la vérité aussi. Parce que depuis un certain temps, les vivres n'arrivent pas régulièrement comme c'était auparavant. Et donc, maintenant, aujourd'hui, ils ont cette opportunité-là.
Monsieur le gouverneur, lieutenant-général Johnny Louboué-Nkachama, merci.
Merci, monsieur le journaliste.
Le lieutenant-général Johnny Louboué-Nkachama, gouverneur de l'Ituri, était interrogé par Martial Kizabiamungu. Fidèles auditeurs, ce journal arrive à sa fin. Il a été coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Pele Kipelamondo. Alain Goy a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Massanzi était à la présentation. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix.